France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Tintin au Congo ou l'histoire d'un vestige controversé. C'est l'un des albums de BD les plus vendus, Tintin au Congo, l'un des tout premiers. Mais c'est aussi le plus sensible des 24 aventures de Tintin. Son auteur, Hergé, bien sûr, une figure emblématique de la Belgique. Or, s'il y a une tâche indélébile dans le XXe siècle belge, c'est bien le Congo. Mort par millions, viols, tortures, mutilations. Le Congo belge est un pillage généralisé reposant sur l'esclavagisme et le racisme. Soit dit en passant, le Congo français ne vaut pas mieux. Hergé écrit les aventures de Tintin au Congo en 1930 sans rien mentionner de ses horreurs de colonisation. L'objectif, au contraire, c'est d'inciter les jeunes Belges à partir pour l'Afrique. Au rythme des réflexions qui traversent nos sociétés, Belges et Français ressortent cet album en se posant la même question. Que doit-on faire dans l'art et dans la littérature de ce passé qui ne passe plus ? Notre invitée aujourd'hui, Laure Murat, historienne, professeure à l'Université de Californie, Los Angeles, autrice du texte « Toutes les époques sont dégueulasses ». Tiens donc, on y reviendra. Livre paru en mai dernier chez Verdier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction chez Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Décembre 2010, Bruxelles. Caméra, journaliste, avocat, on se presse au tribunal. L'affaire est médiatique parce qu'elle est excentrique. Aujourd'hui, on juge une bébé. Elle est là, sous le bras d'un avocat. Sur la couverture, une vieille Ford roule dans la savane sous un ciel radieux, une girafe à côté. Tintin est au volant avec Milou. Et un petit homme noir, cheveux crépus et grosses lèvres, sourit sur le siège passager. C'est Tintin au Congo. La première édition date de 1930. L'auteur est mort depuis 30 ans. Mais pour le plaignant, un comptable d'une quarantaine d'années du nom de Bienvenue Mbutu Mondondo, le sujet est grave. Il s'exprime sur RFI.
Quand on voit Tintin au Congo qui est en train de crier comme c'était à l'époque coloniale sur les pauvres indigènes congolais, eh bien voilà, on voit le chat qui les accuse, qui les insulte de paresseux. Ce livre a été fait justement pour permettre aux Occidentaux de voir les Noirs comme des bêtes, des imbéciles, des personnes non disciplinées, capables de s'organiser.
Cet homme est congolais et vit en Belgique depuis plus de 20 ans. Tous les jours, il est confronté au racisme et aux difficultés qui en découlent, pour trouver un travail, trouver un logement. L'idée d'attaquer Tintin au Congo lui est venue quand il a offert la BD à son neveu et que sa sœur s'y est opposée, au motif que c'était un album raciste. Que les Noirs y sont dessinés de façon caricaturale, qu'ils sont idiots et que Tintin passe son temps à leur montrer la supériorité de sa civilisation occidentale. Alors, monsieur Bienvenue Mbutu Mondondo a appelé Moulinsart, la société des ayants droit d'Hergé. Et Moulinsart lui a répondu que ça ne le regardait pas. Eh bien, en colère, il les a poursuivis, eux et les éditions Casterman, pour faire interdire Tintin au Congo. Ou, à défaut, écrire un avertissement au lecteur. Il est vrai que partout dans le monde, ces dernières années, l'album fait réagir. Au Royaume-Uni, on considère qu'il est raciste. Tintin au Congo est donc rangé au rayon adulte et assorti d'une préface. Puis c'est une réaction en chaîne. En Afrique du Sud, on refuse de le faire traduire. Et à New York, la bibliothèque de Brooklyn le met à l'index, autrement dit dans un placard. Alors il est temps maintenant de s'attaquer à ce vestige du colonialisme en Belgique, le berceau de cette BD. Dans la salle d'audience, le plaignant et ses avocats prennent place. Face à eux, la défense, Moulinsart et Casterman. Les deux éditeurs ont eu beaucoup à faire ces dernières années, entre le centenaire de la naissance d'Hergé et l'adaptation de Tintin au cinéma par Steven Spielberg. Mais l'affaire Tintin au Congo est comme le sparadrap sur le pouce du capitaine Haddock, ils ne savent plus comment s'en débarrasser. Leur avocat s'exprime sur France 3.
Tintin au Congo devant un tribunal, c'est une histoire belge en fait.
On peut le dire comme ça. Je pense que c'est
plus universel que ça, il y a aujourd'hui une tentation du politiquement correct qui est extrêmement dangereuse, puisqu'elle vise, si on devait la suivre, à réécrire l'histoire universelle à la lumière des concepts et des valeurs d'aujourd'hui.
En ce 13 décembre 2010, au tribunal de Bruxelles, c'est le procès du colonialisme contre le procès de la censure. Alors, Tintin au Congo est-il une œuvre raciste? Il faut revenir 90 ans en arrière pour répondre à cette question que Jacques Chancel pose à Hergé en 1979.
Alors je suis frappé par une tendance politique que vous aviez qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin chez les soviets, c'était l'anticommunisme primaire. Oui. Tintin au Congo, alors là, c'était le petit noir. Et vous preniez pour un vrai blanc.
Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que je ne me singularisais pas. Enfin, je crois que tout le monde, à l'époque, était d'abord anticommuniste, ou plutôt, plus exactement, dans le cas du XXe siècle, anti-bolchevique, l'homme au couteau entre les dents.
C'était en 1929.
C'était en 1929, n'oublions pas. Et quant au Congo, mais il allait de soi. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous en voyons d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc j'étais colonialiste comme tout le monde était colonialiste.
Pour cette émission, Radioscopie en l'occurrence, Jacques Chancel s'est déplacé à Bruxelles. On fête les 50 ans de Tintin. Enfin, Tintin a toujours 16 ans. Mais depuis, il en a réellement 50. Entre-temps, 60 millions d'exemplaires ont été vendus. Le Lotus Bleu, les 7 boules de cristal, Tintin au Tibet et tous les autres, il y a eu des adaptations en film, des centaines de traductions, et Tintin et Milou ont leur statut à Bruxelles. Le dernier album a été publié chez Casterman, comme toujours, 3 ans plus tôt. C'est Tintin et les Picaros. Cet entretien avec Jacques Chancel a lieu le 9 janvier 1979, et pour les 50 ans de Tintin précisément, Hergé est prié de se remémorer ce qu'il faisait un demi-siècle plus tôt.
Vous avez l'impression, Hergé, que le 10 janvier 1929, elles sont allées très vite ces années.
Mais quand on évoque le passé, il se passe toujours un phénomène curieux, c'est qu'on l'évoque au présent. N'est-ce pas ? Il n'y a donc pas d'espace entre le passé et le moment où on l'évoque. Ça se passe au moment même où on l'évoque. Et donc c'était hier, c'était à l'instant même où je vous parle. Et d'un autre côté, 50 ans, quand je vois toutes les étapes, je me dis que c'est très long, mais que c'était aussi hier. Ça passait comme une lettre à la poste.
10 janvier 1929, Bruxelles. Alors imaginons la scène. Nous sommes au 11 boulevard Bischofsheim, loin du Palais Royal, dans un quartier bourgeois. C'est un immeuble imposant. Il abrite le siège d'un journal baptisé le 20e siècle. Sa devise, Pax Christi in Regno Christ, journal catholique de doctrine et d'information. Bien, entrons par une fenêtre. Un certain Georges Remy travaille. Il dessine. Il a 21 ans, il est grand, se tient droit. Il a les cheveux rasés sur les côtés, une raie impeccablement tracée. En quelques mots, il vient d'une famille modeste. Il en est complexé. Il a eu une éducation catholique marquée par le scoutisme. Il adore dessiner, même s'il n'est pas pour l'instant très doué. Il est passionné par les grands reporters, Kessel ou Albert Londres, et il dessine pour le supplément jeunesse du journal Le Petit XXe, pour lequel il signe Hergé. Laissons-le travailler et jetons un œil à l'étage du dessous. Là, c'est une pièce plus grande. Un homme en soutane est assis à son bureau. Oh, il est imposant, grand, épais. Il parle fort, éclate de rire, se met en colère. Il a un avis tranché sur tout. Le redressement moral, l'anticommunisme, le judéo-bolchevisme, les francs-maçons. Il s'appelle l'abbé Valèze. C'est le patron du journal et il est, selon le bord politique dans lequel on se place, un rustique wallon ou un fasciste de la pire espèce. En tout cas, il a sur son bureau le tirage du jour de son supplément jeunesse. Alors il le déplie et regarde les planches de l'histoire qui paraissent ce 10 janvier 1929. Ça s'appelle « Tintin au pays des soviets ». Il l'a commandé à son jeune dessinateur du bureau du dessus. Et peut-être le fait-il convoquer en demandant à sa secrétaire, Germaine Kickens, de l'appeler. Hergé descend d'un étage, glisse un sourire complice à Germaine et entre dans le bureau de l'abbé avec crainte et respect. Il s'assied, il jette peut-être un regard à la photo de Mussolini encadrée et dédicacée à Norbert Wallace, amico dell'Italia et del fascismo, 1924. Bon, il écoute, ça tombe bien, ce sont des félicitations. Il a eu raison de ressortir ces personnages imaginés quelque temps plus tôt, ce jeune-là, la houppette et son fox terrier. Les enfants vont s'identifier, et pas de risque qu'ils soient tentés par le communisme. L'URSS est décrite comme il faut, un véritable enfer. Hergé est fier. L'abbé est une figure d'autorité. Il dira plus tard qu'il lui doit tout. Ce 10 janvier 1929, la première case dit ceci.
Le petit 20e, toujours désireux de satisfaire ses lecteurs et de les tenir au courant de ce qui se passe à l'étranger, vient d'envoyer en Russie soviétique un de ses meilleurs reporters, Tintin. Ce sont ses multiples avatars que vous verrez défiler sous vos yeux chaque semaine. Nota bene, la direction du petit 20e certifie toutes ses photos rigoureusement authentiques. Celle-ci ayant été prise par Tintin lui-même, aidé de son sympathique cabot, Milou.
Dans les cases suivantes, Tintin et Milou prennent le train pour la Russie. À peine montés, voilà qu'un communiste pose une bombe sous leur siège. Je crois que ce sale petit bourgeois dort. Il est temps d'agir, car il ne faut pas qu'il arrive en Russie. Il pourrait raconter ce qui s'y passe, peut-on lire. Cela n'empêche pas évidemment Tintin de rapporter aux enfants belges la famine, la corruption, l'intimidation. Caricaturé bien sûr, mais finalement pas très loin de la réalité soviétique. Tintin au pays des soviets est publié en feuilleton cette année 1929 et c'est l'abbé qui en a eu l'idée. Pour le concevoir, il a exposé ses opinions à Hergé. Il lui a donné les mémoires d'un consul belge en URSS, des romans anticommunistes, et ça suffit. Ça suffit parce que Hergé sait très bien comment représenter les communistes. Ce qu'il veut, c'est réussir et satisfaire l'abbé. Eh bien, les objectifs sont atteints. Le journal est acheté et bientôt les albums. Les personnages d'Hergé doivent donc continuer à vivre. Et alors que l'aventure soviétique se termine, un encart paraît dans le journal. Tintin et Milou se tiennent devant un globe et se demandent « Et maintenant, où aller ?» L'abbé a une idée.
Le Congo belge est l'un des pays les plus riches du monde. Cuivre, or, diamant, étain sont les quatre produits miniers clés du Congo. L'union minière est une des choses les plus puissantes du Congo belge. À Kipushi, elle exploite la mine Prince Léopold et traite ses minerais à proximité de la ville. Ce sont ces deux centres que nous vous proposons de visiter avec nous. Sur notre route, le principal des bâtiments que nous longeons est l'hôpital. Au passage, nous cueillons un chant d'enfants. Frère Jacques en langue kiswahili. Ce sont des bébés, des négrillons, 3 ans pour l'aîné, qui la chantent en se balançant sur des chevaux de bois. C'est l'orphelinat de la mine. Il occupe des chambres dans l'hôpital, des chambres meubles de poupées, aux murs clairs, où sont dessinées des fées, des figures d'anges. Il y a 12 petits négrillons à l'orphelinat de Kipushi.
Cette archive est française. Elle date de 1948, mais le traitement du Congo belge est le même en 1930. Les mots négrillons sont brutaux, évidemment. L'exploitation cruelle. Mais à l'époque, tout cela est banal, voire normal. En 1930, la Belgique est même fière de cette colonie 80 fois plus grande qu'elle. Elle l'exploite depuis sa conquête en 1876. Le pillage du Congo fait de la Belgique la 4e puissance industrielle mondiale. Par ici la bonne affaire. Mais bien sûr, la colonisation est présentée sous un angle civilisateur où les missionnaires apportent aux Noirs le progrès et le salut. Les massacres, eux, se font au loin. Depuis la Belgique, on n'entend pas les Congolais crier. Enfin, presque. Car en cette année 1930, André Gide a tout de même publié son voyage au Congo. Albert Londres a écrit « Terre d'ébène » sur la traite des Noirs. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait rien. Mais l'opinion belge, dans son immense majorité, est fière. Fière, d'accord. Mais il y a de moins en moins de volontaires pour le départ. Il faut donc réactiver l'envie d'aller en Afrique. Alors Hergé, comme pour les soviets, se documente, il lit des articles et se rend dans un musée à Tervuren, en banlieue de Bruxelles. Eh bien, entrons dans cet endroit avec lui. C'est un bâtiment en longueur et en symétrie qui ressemble un peu au Petit Palais, à Paris. Deux grandes colonnes, une coupole et un beau jardin. Hergé entre dans ce qui s'appelle le musée du Congo belge. Il déambule, s'arrête devant les peintures, des vastes savanes, des fleuves violents, des cases. Il observe les animaux empaillés, crocodiles, gnous, antilopes. Il scrute les pirogues, les fétiches et marque un arrêt devant la représentation d'un homme habillé en peau de léopard. C'est qu'il est impressionné. Pourtant, ce n'est pas un idéologue, Hergé. Mais à Bruxelles, on joue au Monopoly colonial. On passe par la rue des colonies, par exemple, et les Noirs parlent le petit nègre. À Paris, un an plus tard, 8 millions de visiteurs se pressent pour voir des Noirs et des Arabes en cage à l'exposition coloniale. Pour Hergé, comme pour son entourage, ces gens sont de grands enfants, alors que les Européens, eux, représentent et incarnent l'avancement ultime de la civilisation. Mais Hergé ne questionne rien, parce que ce n'est pas son métier, et il se justifie, en 78, sur France Inter.
Alors, est-ce que vous pensez vous engager politiquement lorsque vous dessinez des aventures de ce genre ?
Mais d'abord, ça s'est passé il y a très longtemps. N'oubliez pas que Tintin est un journaliste, au départ, l'idée d'un journaliste. Mais n'oubliez pas que Tintin est aussi un reporter, c'est-à-dire, en principe, un miroir. Il a reflété, il a regardé les événements qui se sont reflétés en lui.
Vous étiez un affreux colonialiste.
Mais non, mais il y avait l'exposition coloniale à Paris aussi. Enfin, tout le monde était colonialiste, pour finir. C'était une espèce d'ambiance. Vous dites, Tintin a reflété ça. Il a été le miroir qui a montré ça.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies. On pense encore à toi, Rouen.
5 juin 1930, il est là dans le petit 20e, le début de Tintin au Congo. T'y vois, boule d'ineige, dit un Africain à l'enfant. Sur ce bateau, il y en a Tintin et Milou. T'y sais bien, les reporters du petit 20e. Bon, c'est écrit comme ça dans le texte, évidemment. Tintin est accueilli en héros par les Africains, représenté avec de grosses lèvres et l'air ahuri. Ils sont gentils, ces nègres, dit Tintin, de nous porter en triomphe jusqu'à notre hôtel. Pendant un an, Tintin au Congo paraît en feuilleton. Alors, nous n'allons pas faire l'inventaire de ce qui peut être considéré comme raciste. Ce serait trop long. Non. Attardons-nous plutôt sur deux scènes. Dans la première, Tintin est en voiture, coincé sur des rails. Une locomotive menace de le percuter. Mais elle déraille au contact de la voiture, qui s'en sort indemne. Et des Noirs excentriques, portant fourrure, uniforme ou cravate à même le torse, se plaignent à Tintin, qui parvient tout seul à réparer leur train. « L'initié blanc malin, bien noir. » Dans la deuxième scène, Tintin est dans une école avec un missionnaire. Il se tient au tableau devant les enfants et leur dit « Je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. » Ajoutons que Tintin tue beaucoup d'animaux. Antilopes, rhinocéros, boas, singes, crocodiles. C'est l'album le plus violent. Mais Tintin au Congo n'est pas la BD la plus raciste du moment. Si l'on se souvient de cet album, c'est parce que c'est Tintin et qu'il y a bien pire ailleurs, mais on a oublié. Juillet 1931, Bruxelles, Gare du Nord. Un jeune homme est déguisé en Tintin. On lui fait une houppette et on lui met un casque colonial. Et il y a foule pour l'accueillir. Hergé est là, l'abbé aussi. On distribue des cadeaux, puis on marche jusqu'au XXe siècle. Tintin monte au balcon devant des centaines de personnes. Des enfants sont juchés sur les épaules de leurs parents, tout sourire. Il y a quelques personnes noires. Tous et toutes regardent Tintin et Hergé côte à côte, profiter de leur succès. Tintin au Congo suscite beaucoup d'enthousiasme et aucune critique. Hergé vit encore chez ses parents, mais son œuvre est lancée. Il est maintenant un incontournable de cette presse réactionnaire qui s'enfonce petit à petit vers la guerre.
Il était fort et puis si tendre que dès notre première nuit, je sentais que je pourrais plus me reprendre et que pour toujours j'étais à lui. Je voyais toutes les femmes lui sourire, moi je me cramponnais à son bras et je les regardais comme pour leur dire, il est à moi et je lâche pas. C'était un gars de la coloniale, il avait la partant du front. Quand il avait la fièvre, il parlait trop et j'avais peur. Je mettais la main sur ses lèvres pour pas connaître le fond de son cœur. Car je sentais que dans son âme, il y avait des larmes et du cafard. Longtemps j'ai cru que c'était une femme, quand j'ai compris, c'était trop tard. C'était un gars de la coloniale, il avait la barbe dans du front.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Tintin au Congo.
Affaires Sensibles.
Tu sais, Milou, si nous voulons que mon article tienne debout, nous allons devoir aller sur place.
J'aime pas que ce Tintin vienne fourrer son nez dans nos affaires.
Eh bien, quelle arrivée mouvementée, ça commence fort.
Allô, il y a un os avec le plan Tintin.
Tout cela me semble louche, Milou. Mieux vaut être vigilant.
Fabrice Drouel.
Septembre 1944, 13 ans après Tintin au Congo. Nous sommes à Boisfort, à l'extérieur de Bruxelles, au domicile d'Hergé et de sa femme Germaine. Tiens, Germaine, vous vous souvenez? C'était la secrétaire de l'abbé Wallaise. La libération a commencé dans une grande violence. Hergé et son épouse sont inquiets. Des résistants de la dernière heure procèdent à une épuration sauvage. Et bien justement, à minuit, on frappe à sa porte. Hergé n'a d'autre choix que d'ouvrir. Des individus l'arrêtent, car il y a son nom dans une brochure appelée Galerie des Traîtres, et même deux fois. Au nom de Georges Remy, le vrai patronyme d'Hergé, il est écrit « Impossible d'obtenir des renseignements sur cet individu. Tout ce que nous avons appris, c'est qu'il doit être surveillé de près. » Hergé est emmené, puis libéré. Il est arrêté trois autres fois, perquisitionné. Il passe une nuit en prison et il en est très blessé. Mais une guerre est passée par là. Et cette guerre, Hergé l'a très bien vécue. Nous l'avons laissé en 1931. La suite est simple. Son œuvre se poursuit dans un environnement fascisant qui peu à peu prend parti pour les nazis. Il illustre des blagues antisémites. Il côtoie Léon de Grelle, futur porte-voix belge des nazis et dont nous allons vous raconter l'histoire le 7 janvier prochain. Quand la Belgique est envahie, Hergé entre au journal le soir. C'est le plus grand quotidien belge francophone. Mais comme toute la presse, il est sous la botte des nazis. Le crabe aux pinces d'or, l'étoile mystérieuse, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, ces albums sont publiés dans le soir. Haddock et le professeur Tournesol apparaissent pour la première fois dans un journal collabo.
1 000 milliards de 1 000 sabords.
Je m'appelle Tournesol, Trifon Tournesol.
Moi, c'est Dupont avec un T à la fin. Je dirais même plus Dupont, mais avec un D.
Dans les mêmes éditions du journal Le Soir, on lit des articles appelant à la déportation des Juifs ou d'autres horreurs. L'occupation est une période faste pour Hergé. Mais dans ses albums, il n'y a rien à lui reprocher directement. Hormis une chose. Dans l'étoile mystérieuse, à l'annonce de la fin du monde, deux Juifs au nez crochu se frottent les mains devant leur boutique. Hé, dit l'un d'eux, ce serait une bonne affaire, Salomon. Le méchant, lui, est un financier du nom de Blumenstein. Je travaillais, un point c'est tout, dit Hergé, comme travaillerait un mineur, un receveur de tram ou un boulanger. Quelle mauvaise foi. Il sait très bien qu'en temps de guerre, la presse fait passer plus d'idées qu'un boulanger. Mais toute sa vie, il ne se défait jamais de cette posture victimaire. L'épuration condamne beaucoup de ses collègues. Certains sont même exécutés. L'abbé, lui, fait 4 ans de prison. Et si Hergé passe entre les mailles du filet, c'est pour deux raisons. D'abord parce que des résistants viennent le trouver pour travailler avec lui. Ensuite, parce que le procureur chargé de ce dossier le révélera, on ne met pas Tintin en prison. Bref, Tintin a sauvé Hergé, qui parle de son caractère dans l'émission « Ouvrez les guillemets » en 1973.
Peut-être est-ce ma nature, je ne sais pas si vous croyez à l'astrologie, mais enfin je suis né sous le signe des Gémeaux, et cette espèce de balancement, est-ce que oui, ceci est bien, mais ceci n'est pas mal non plus, cette impossibilité de prendre parti, cette incapacité de prendre parti, simplement voir le pour et le contre sans arrêt, et créer une sorte de tension sans arrêt, une sorte de dialogue d'ailleurs.
Ne pas prendre parti. Si Hergé tire une leçon de la libération, c'est bien celle-là. Dans son œuvre future, il ne faut plus prendre parti. Et de son œuvre passée, il faut gommer ce qui est problématique. Hergé commence cette refonte à la fin de la guerre. Il est assisté d'Edgar Jacobs, futur créateur de Blake et Mortimer. Alors exit les saillies antisémites de l'étoile mystérieuse. Mais Hergé Jacobs s'occupe aussi d'autres albums, dont Tintin au Congo. L'objectif est également de moderniser le trait, de réduire au format 62 pages et de retirer tout ce qui place l'histoire dans une époque pour que Tintin soit universel. Hergé gomme les références à la Belgique. Aux enfants africains, il ne fait plus une leçon sur l'histoire belge, il donne un cours d'arithmétique. Et une nouvelle version parue en 1946. Mais Hergé est devenu un auteur banni et déprimé. La faute à des affaires sentimentales et à sa réputation problématique. Alors, pour les années qui viennent, il travaille à son rachat moral. Coq en stock est publié en 1958. Tintin et le capitaine Haddock démantèlent un trafic d'esclaves sur un bateau. Voici une adaptation datant de 1963.
Je vous tire de vos oubliettes, de votre cul de passe-fausse et vous me tombez à douze sur le dos. Ah, c'est du propre, grand lâche.
Pas fâché. Fous pas, toi. Pas crier non plus.
Bon, je devrais peut-être vous remercier, hein.
Nous, on savait pas. Blanc pas toujours gentil. Et nous pensait que toi étais méchant blanc, tu comprends?
Méchant blanc, vous entendez ça, Tintin? Bon, enfin, et après?
Méchant blanc enferme les noirs au fond grand bateau.
Bien, alors la question est réglée. Vous êtes sorti de la cale et je ne suis pas une crapule. Je peux même vous dire que je suis un bon zig, un peu coléreux mais brave.
C'est sûr, commandant, c'est sûr.
C'est ça.
Et où sont les méchants blancs?
Bougre de méchants blancs partis sans laisser d'adresse. Abandonnez-nous. Mais si vous m'aidez, moi vous conduire où vous allez. À la Mecque vous allez, hein?
Oui, commandant, à la Mecque. Nous, bons musulmans, pèlerinage au tombeau du prophète.
Je comprends. Eh bien, on vous y conduira.
Évidemment, vu aujourd'hui, ça n'arrange pas son cas. Mais l'histoire raconte la libération d'esclaves noirs, et à l'époque, là est le principal. Hergé se veut dans le camp du bien, attentif à ne plus paraître sulfureux. Et son éditeur, Casterman, est encore plus précautionneux que lui. Les années 60 arrivent, avec les décolonisations et les réflexions qui vont avec. En 71, l'édition anglaise remodèle l'intrigue de Tintin au pays de l'or noir, qui comprend trop de mentions britanniques et à la création d'Israël. Donc, toute référence géopolitique est purgée. Mais soyons clairs, la raison est avant tout commerciale. Tintin au Congo, lui, est introuvable. Il s'est vendu à 800 000 exemplaires, mais il n'est plus réédité. Pire encore, au dos des nouveaux albums figurent les titres des précédents, sauf Tintin au Congo. Hergé l'a accepté, à contre-cœur, bien sûr. Jeune Afrique publie des articles vitriol. Dans Le Canard enchaîné, on lit... Si vos enfants doivent être sages comme des images, évitez que ces images soient du dessinateur Hergé. Mais ça ne lui convient plus. 10 ans après l'indépendance congolaise, il insiste lui-même pour que Tintin au Congo reparaisse. Et il obtient gain de cause. Mais, important, dans cette version, le mot nègre est remplacé par noir. J'ai cédé aux instantes prières de mes éditeurs, écrit Hergé, soucieux que j'étais de ménager les susceptibilités des gens du tiers-monde et plus encore de leurs défenseurs à Paris ou à Bruxelles. L'album est réédité en mai 70. Mais le problème de cette version, c'est qu'elle est moderne. Tintin au Congo n'est plus seulement une erreur de jeunesse en noir et blanc. C'est un album en couleur, qui n'a plus d'âge et qui se mêle aux autres aventures de Tintin. Et pourtant... ...1970, nous sommes au Zaïre, nouveau nom du Congo indépendant. L'hebdomadaire le plus vendu, qui s'appelle Zaïre, lui aussi lance une enquête auprès de ses lecteurs. Ce sondage dit que les Congolais considèrent Tintin comme une part de leur patrimoine et que Tintin en Congo ne le dérange pas, au contraire. S'il y a une chose que les Blancs n'ont pas comprise, dit l'enquête, si certaines images caricaturales du peuple congolais font sourire les Blancs, elles font rire franchement les Congolais parce qu'ils y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme ça. Bon, c'est une option. Cet album a été apporté par les missionnaires, il est très célèbre, rappelons-le, on en vend des reproductions dans la rue avec des figurines taillées dans du bois. Kisseto, un auteur de BD congolais, raconte sur France Culture en 1992.
Les gens ici, au Zaïre, adorent la bande dessinée. C'est peut-être une habitude qu'ils ont acquise dès l'arrivée de Belges ici, qui, à mon avis, j'estime être bon, les pères de la bande dessinée en Europe même. Et les Belges ont amené ici des tonnes et des tonnes de bandes dessinées gratuitement à le faire lire aux Zaïrois. Ce qui fait que moi-même, par exemple, bon, j'ai commencé à lire ma bande dessinée chez les missionnaires. Alors, les gens, les Kinois, les gens, les Zaïrois, ont acquis cette habitude à partir... Bon, un symbole, peut-être, Tintin au Congo. Tant et si fait qu'ils ont vu naître par-ci, par-là, non plus des lecteurs, mais des créateurs.
Les échos africains au sujet de Tintin au Congo sont souvent positifs. On pourrait donc se dire que si ça ne dérange pas les Congolais, il n'y a pas de sujet. Tintin au Congo est une affaire classée. Oui, mais c'est sans compter sur le fait que l'expérience du racisme au Congo après l'indépendance n'est pas la même que celle des personnes d'origine africaine qui vivent en Europe. Alors ça ne fait pas taire les critiques. La plus virulente, on la trouve dans Le Point, en 1973, qui dit « Celui qui, mine de rien, poursuit impunément le ravage des consciences enfantines, cet as de la débrouillardise occidentale voguant sur un océan de bêtises, de ferments racistes et de préjugés bourgeois, c'est la créature de la noble conscience d'Hergé. Eh oui, c'est Tintin. Allez, assez, on empoisonne nos enfants, il faut brûler Hergé. » C'est dans cet environnement qu'Hergé termine sa vie, entre un immense succès et le fardeau des accusations. Nous sommes en 1979, Tintin a 50 ans, Hergé 71, Jacques Chancel fait Le Point.
Tintin a été... Et encore ce que vous n'êtes pas,
non,
c'est-à-dire
sûrement.
Albert Londres,
oui.
Joseph Kessel,
oui,
Lucien
ça,
Baudard,
oui,
enfin beaucoup d'autres.
Oui, c'est sûr, c'était les grands voyages.
Alors peut-être êtes-vous passé à côté de votre propre vie et vous avez donné votre vie à un personnage complètement imaginé, inventé, fabriqué de toutes pièces.
C'est possible.
Et peut-être que vous n'avez pas vraiment vécu.
Je crois que j'ai vécu, mais il est possible, ça aurait pu être autrement. Enfin, ça a été ceci et je crois que je m'en accommode très bien.
Il y a un manque quand même quelque part,
pas du tout, je ne le vois pas. Oui.
Pourquoi un jour vous n'iriez pas jusqu'à tuer Tintin, le faire mourir dans un album pour réinventer un personnage là?
Mais je n'ai pas du tout envie de faire ça.
Mais parce que vous vous réinventeriez,
non.
Il y aura une deuxième naissance, un deuxième Hergé.
Non, je n'ai pas du tout envie de faire ça.
On n'a pas le droit de tuer sa créature.
Je ne sais pas si on n'a pas le droit, mais enfin, je n'ai pas envie de le faire.
Quatre ans après cet entretien, Hergé meurt à l'âge de 75 ans dans un hôpital bruxellois. Il souffrait d'une leucémie. Il était à la bande dessinée, écrit Le Monde, ce que Bach était à la musique. Alors, sa mort fait-elle taire les critiques? Non. Elle continue jusqu'à la plainte en 2007 d'un comptable d'une quarantaine d'années, de nationalité congolaise, installé en Belgique, du nom de, et on le connaît maintenant, Bienvenue Mbutu Modondo. Alors, avec ce dossier et ces détails qu'ils connaissent désormais, comment les juges répondent-ils à la question « Tintin au Congo est-il une œuvre raciste ?» Le 28 novembre 2012, la Cour rend son jugement et dit Il ne ressort pas des dessins et des dialogues qu'Hergé avait la volonté de concevoir une bande dessinée destinée à véhiculer des idées à caractère raciste. Tintin au Congo est avant tout un témoignage de l'histoire commune de la Belgique et du Congo à une époque donnée. Donc, Tintin au Congo ne sera pas interdit et les éditeurs ne seront contraints à aucune préface. Tout de même, en 2023, les trois premiers Tintins, autrement dit au pays des Soviets, au Congo et en Amérique, sont réédités en couleur, avec préface. Le coffret, lui, est vendu 60 euros. Oui, même Tintin au Congo reste une bonne affaire. Tintin au Congo, aujourd'hui, on en parle avec notre invité Laure Murat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'Université de Californie, à Los Angeles, auteure du texte « Toutes les époques sont dégueulasses », paru en mai 2025 chez Verdi. Alors déjà, moi, ce titre m'a interpellé, « Toutes les époques sont dégueulasses ». Ça veut dire que le « c'était mieux avant », on oublie, le « c'est mieux aujourd'hui », on oublie aussi ?
Oui, sans doute, oui. Toutes les époques sont dégueulasses ou aucune ne l'est, d'une certaine façon. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas accabler le passé, parce qu'il est évident que dans 30 ans, on n'aura plus Dieu que pour la poutre qu'on a dans l'œil actuellement.
Ah oui, bien sûr. Alors, ce texte est une réflexion sur ce que notre époque doit faire des œuvres passées qui nous heurtent, moralement, politiquement. D'abord, est-ce que c'est un problème nouveau ? Est-ce que c'est une question qui s'est posée à toutes les époques, finalement ?
C'est un problème récurrent. Et je pense que c'est un problème légitime aussi. Mmh. Il est justifié, en quelque sorte.
Pourquoi il est justifié ?
Parce que ce que véhicule la bande dessinée, la littérature, l'art, le cinéma, a un impact considérable sur nos imaginaires. Toute œuvre est politique, d'une certaine façon. Tintin au Congo l'est particulièrement. Oui. Alors, dans cette affaire, il y a bien sûr la responsabilité d'Hergé. On se focalise beaucoup sur Hergé lui-même, et vous avez très bien retracé... Il y a les éditeurs, bien sûr. Et puis, il y a aussi les parents qui achètent ça pour leurs enfants. C'est une responsabilité collective. Moi, Hergé... Bon, alors Hergé, on m'explique... D'ailleurs, c'est sa ligne de défense qui n'a jamais varié. Il dit « j'étais un homme de mon temps ». Bon, ben... Jordan Bardella est un homme de son temps.
Ça c'est extraordinaire. D'abord, comment ne pas être un homme de son temps, déjà ? C'est absurde.
Part, oui.
Et qu'est-ce que ça veut dire, être un homme de son temps ? Ça veut dire épouser tout ce qui va dans son temps, y compris ce qui va pas bien, c'est ça en fait ?
Exactement. Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup dans toutes les archives que vous avez passées, qui sont passionnantes, c'est la vigueur avec laquelle Jacques Chancel l'interroge.
Oui.
Et quand il dit « vous étiez raciste, c'est une œuvre raciste », il dit oui.
Ouais.
Il le reconnaît.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était banal, voire normal.
Bah, hein, oui, mais enfin, bon, il dit oui, en effet. Bon, ben, je pense qu'il avait raison.
Alors, il y a un refus d'une tendance qui viendrait des États-Unis, comprendre l'idéologie dite « woke » ou la « cancel culture ». Alors, je rappelle que « woke », ça veut dire « s'éveiller », donc ça veut dire « se déconstruire ». On est d'accord là-dessus ?
Enfin, se maintenir éveillé, oui.
Se maintenir éveillé, c'est une façon de se déconstruire.
Enfin, moi, je préfère être éveillé qu'endormi, personnellement.
Est-ce que les modifications des livres d'Agatha Christie, par exemple, répondent à cette pression-là ? Des petits nègres, on a changé le titre.
Alors, elles répondent, oui, à cette pression-là, comme vous dites, mais cette pression-là, elle était d'actualité quand le livre est sorti. Dès la sortie du livre aux États-Unis, ça a posé un problème. On a changé le titre. Enfin, on parle des petits nègres, hein,
oui,
bien
oui,
entendu. Et puis, on a changé le titre. Ça, c'était pas très heureux pour dix petits indiens. Donc, on passait d'un racisme à un autre, d'une certaine façon. Et puis, à force d'édulcorer, de falsifier, etc., on aboutit à quelque chose d'assez incohérent. Alors, il y a deux choses.
Artificiel, en fait.
Artificiel et idiot, en réalité, hein, parce que c'est idiot. À la fin, c'est complètement idiot. Et on fait dire à Agatha Christie le contraire de ce qu'elle pense et de l'esprit dans lequel baigne le livre.
En plus.
Et ça, c'est très embêtant, parce que à force de petites modifications cosmétiques, vous aboutissez à un mensonge historique et on n'y comprend plus rien. Et ça, je trouve, c'est très dommageable.
Et d'ailleurs, aux États-Unis où vous enseignez, on a vu apparaître un nouveau métier, les sensitivity readers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On voit ce que ça veut dire si on traduit, mais en quoi consiste ce travail ?
Alors, si on traduit, ce serait les lecteurs sensibles ou les lecteurs... les lecteurs sensibles. Alors, en français, on traduit toujours les expressions américaines. Alors, soit on ne les traduit pas pour bien montrer que c'est l'horrible Yankee qui débarque, on dit « cancel culture », on dit « politically correct », on dit, etc., « woke », etc. Ou alors, on donne des traductions absurdes, comme par exemple, quand vous dites « affirmative action », une action affirmative, on appelle ça « discrimination positive ». Donc ça, c'est délirant. Bon, « sensitivity readers », on a... J'ai vu cette traduction des mineurs éditoriaux.
Bon. Des mineurs.
Donc on va chercher les mines qui seraient supposées exploser à la face du public et qui seraient tous les mots qui fâchent et toutes les idées qui fâchent, c'est-à-dire le racisme, la misogynie, l'homophobie, etc., etc., l'antisémitisme. Voilà. Donc c'est eux qui seraient chargés de traquer des mots, des expressions, des idées problématiques. Pour les... Voilà. Alors, attention, parce que le faire pour le passé, c'est une chose. Et j'espère avoir démontré dans mon tout petit livre que c'était une mauvaise chose. Le faire pour le présent, avec la collaboration de l'écrivain ou de l'écrivaine, pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Oui, sinon, on agit contre la liberté des écrivains et des artistes. Si on ne le fait pas avec eux.
Exactement. Exactement.
Et ça pose un problème.
Sinon, on fait une forme de police de la pensée qui n'a aucun sens. Mais je pense que c'est une question, je reviens là-dessus, c'est une question valide. Vous voyez, c'est une question valable. Est-ce qu'on a envie de donner à nos enfants une bande dessinée qui parle de nègres et qui les traite en idiots? Non. Moi, je serais parente, ce que je ne suis pas, je ne le ferais pas.
Ouais.
Donc, il y a des choix à faire, et je pense que c'est une action collective qu'il faut mener, et une réflexion collective. Ça, je tiens beaucoup à ça.
Quand vous dites collective, ça veut dire qui?
Ben, ça veut dire, alors, en effet, des lecteurs sensibles, des professeurs, des fonctionnaires, enfin j'en sais
rien. Toutes les personnes qui sont aptes par leur métier à réfléchir à ça.
Oui.
Et proposer des chemins.
D'accord.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Laure Murat, autrice de Toutes les époques sont dégueulasses. C'est un tout petit livre qui tient dans la poche. Il n'en est pas moins très intéressant, évidemment. On va revenir sur Tintin au Congo. Il y a quelque chose de déroutant sur le sujet. Il existe de nombreux témoignages d'Africains ou de personnalités d'origine africaine qui ne comprennent pas les troubles que cet album provoque. Alors je vous propose d'écouter, dans ce sens, l'écrivain Alain Mabankou, c'est un franco-congolais. Il s'exprimait chez nous, donc sur France Inter, en 2012.
Je ne pense pas que la censure de cet album réglerait quelque chose. Je l'avais écrit dans le Nouvel Observateur où j'expliquais qu'il faut laisser ça comme une trace qui montrera comment la pensée était très coloniale à cette époque-là. Parce que ces albums de Hergé, ça participait de cette propagande de l'époque où les Belges ne voulaient pas aller au Congo parce qu'on avait une image un peu bizarre de l'Afrique. Donc tout cela vantait les mérites peut-être de la Belgique. Donc il faut laisser la trace coloniale, sinon il faut aller effacer les pages chez Montesquieu, chez les autres écrivains, y compris les écrivains noirs qui ont dit des choses bizarres sur les Blancs pendant les textes de la littérature de la période coloniale.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est de toute façon que là, vous savez qu'Alain Bamboko est mon collègue à UCLA, donc je le connais bien. Ça m'inspire la remarque suivante, c'est que moi, de toute façon, comme Alain Bamboko, je suis absolument contre la censure. Bernard Noël, qui était un poète, qui nous a quittés il y a quelques années, orthographiait la censure avec un S. C'est une privation de sens.
Mais...
Si vous censurez, vous privez de sens. Mmh. Et surtout, vous privez les opprimés de l'histoire de leur oppression. Et ça, je crois que c'est très grave. Quand vous déboulonnez des statues, ce qui aurait plutôt ma faveur, parce qu'il n'y a pas à faire de la propagande pour des assassins, il ne faut pas détruire les statues. Il faut bien les conserver. Et bien comprendre d'où on vient.
C'est ce qu'ont fait les Hongrois à Budapest. Il y a à Budapest, dans la banlieue, un terrain sur lequel sont exposées toutes les statues communistes qui fleurissaient partout dans les rues de Budapest. C'est le même procédé ?
C'est le même procédé. J'ai appris récemment qu'il y avait une exposition actuellement à Los Angeles, au Hammer Museum, avec des statues de généraux confédérés qui ont été démantelées et réutilisées par des artistes contemporains. Ça me semble une voie possible, mmh. intéressante en tout cas, et une façon, non pas de nier l'histoire, mais de la faire aux contemporains, mmh. hein, dans notre temps.
De la faire, vous dire, de l'enseigner ?
Enfin, de faire l'histoire, c'est-à-dire, oui, de l'enseigner et de la montrer. Ça et me semble très montrer. Important. Oui.
Alors, il y a une parade qui est souvent employée, et c'est vrai qu'elle paraît vertueuse, c'est contextualiser, écrire une préface, et votre livre dit, en substance, hein, « Et si les précautions prises à tout contextualiser produisaient à terme un effet pervers ?» Expliquez-moi ça.
Alors, il y a un effet pervers, dans, précisément dans l'affaire de Tintin au Congo, puisque cette préface qui était réclamée à corps et à cri par un certain nombre de militants ou simplement de sympathisants, dont le conseil représentatif des associations noires, qui le demandait depuis très longtemps.
Oui.
Finalement, cette préface a été commandée à Philippe Godin, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et qui était le, alors je vais peut-être dire, mal dire son titre, le président des éditions Moulinsart, enfin d'une, de la société de Tintin, des Amis de Tintin. Et donc un grand défenseur du grand homme, ayant cœur, évidemment, à prouver qu'il était un homme de son temps, et que non, pas du tout, il n'était pas raciste, etc., etc. Donc, c'est très dommageable, alors, parce que, d'une part, cette préface a fait partie de cet album que vous avez cité, qui s'appelle Les Colorisés, mmh. qui coûte 60 euros, donc il y a peu de chances pour que cette préface soit beaucoup lue. 60 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc, elle va passer à l'as, d'une certaine façon, et c'est une sorte de gage qui a été concédé hein,
aux, oui, c'est ça, en fait.
Aux militants qui mmh. souhaitaient ça. Néanmoins, elle a le mérite d'exister. Le simple fait de faire une préface signale qu'il y a un problème. Bah, maintenant, la façon dont, mmh. dont le problème a été traité est très, à mon avis, très discutable, puisque, malheureusement, Philippe Godin ne fait aucune comparaison, ni avec les bédéistes contemporains d'Hergé. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. J'aurais été curieuse de savoir, parmi les bédéistes, ceux qui traitaient de la question noire, comme on dit, ou en tout cas qui représentaient des Noirs, comment est-ce qu'ils les représentaient ? Peut-être que Hergé s'en serait pas si mal sorti. C'est ça en plus le, mmh. l'ironie de l'histoire. Et il passe son temps à justifier Hergé. Alors qu'une préface, c'est très important, hein, parce qu'une préface, c'est une prise de pouvoir, d'une certaine façon. Vous prenez le pouvoir
sur le livre.
Ben, sur le livre. Hein. Ouais. Bon. Alors, il faut faire un gros effort de contextualisation, justement, pour bien comprendre où se situe Hergé exactement. Il se situe en 1930, à une époque où Gide fait son voyage au Congo, que Simenon est retourné, qui était tout à fait pro-colonial, enfin, qui était colonialiste, qui revient effaré de son voyage au Congo. Donc, il y a certaines voix qui, voilà, qui quand même font entendre un autre son de cloche. Il n'empêche que, en effet, à l'exposition coloniale, il y a 8 millions de visiteurs. L'exposition anticoloniale des surréalistes, il y en a 4 000. Ça vous donne l'étiage. Bon, c'est certain que c'était une majorité. Mais une majorité de gens étaient antisémites. Est-ce que vous auriez aujourd'hui une bande dessinée où il y aurait marqué Youpin à toutes les pages, avec des personnages, avec des nez crochus et qui veulent prendre le pouvoir ?
On va pas s'en plaindre.
Ah non. Bon. Ah non, on va pas s'en plaindre, ça c'est sûr.
Mais écoutez, ce sera le mot de la fin, l'ormura. Je rappelle le titre de votre livre. Toutes les époques sont dégueulasses. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Tintin au Congo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Roland Maher.